célébrer un des grands bénédictins de ce siècle qui a été Premier ministre de Chine. Oui, Premier ministre de Chine, au moment de la chute de l'Empire, au début du siècle. Il s'appelait Lu Zhenxiang. Et, croyez-le ou non, il est devenu abbé bénédictin d'un monastère en Belgique, à Gand. Lui qui était né à Shanghai en 1871. Il est mort le 15 janvier 1949 à Bruges. C'est là qu'est l'abbaye de Saint-André de Bruges, qu'on connaît bien ceux qui ont porté presque à bout de bras les gros missels qui étaient imprimés à cette abbaye qu'on avait dans les années 30-40, hein? Le missel de Don Gaspard Lefebvre et d'autres missels. Alors, il est mort, donc, à Bruges, et il s'appelait à ce moment-là Don Pierre Célestin Lu Zhenxiang. J'appelle Zhenxiang, ça vous évitera de vous demander comment ça s'écrit. D'abord, Lu, c'est son nom de famille, L-O-U, et son prénom, qui vient toujours après chez les Chinois, n'est-ce pas, et comme même chez les Arabes. Zhenxiang, T-S-E-N-G, trait d'union, et Tiang, T majuscule S-I-A-N-G. Ça fait donc Lu Zhenxiang, et qui était donc abbé titulaire de Saint-Pierre de Gand, ancien diplomate et homme d'État chinois, et dont l'existence a été exceptionnelle, je dirais plus qu'exceptionnelle, c'est pour ainsi dire unique. Il avait été baptisé protestant, méthodiste, vers l'âge de 8 ans, si je me souviens bien, puis il est devenu catholique plus tard. Mais il est demeuré confucianiste dans son cœur. Ne vous scandalisez pas. Saint Thomas d'Aquin, grand théologien de l'Église catholique, était aristotélicien, c'est-à-dire qu'il était attaché à la philosophie d'Aristote, ce grand philosophe grec. Or, Lu Zhenxiang, mort catholique et bénédictin, était attaché à Confucius, philosophe chinois admirable. Il a été ministre des Affaires étrangères et premier ministre de Chine. Il est devenu veuf et c'est là qu'il s'est fait moine en Belgique. Il a été ordonné prêtre et 11 ans plus tard, il est devenu abbé de Saint-Pierre de Gand. Et avant sa mort, il établit un programme d'action pour la rencontre spirituelle de la Chine et de l'Europe. Voilà le résumé de sa vie. Et maintenant, nous allons la parcourir ensemble, si vous voulez bien. C'est quelque chose de tellement fascinant, moi, qui m'a fasciné depuis mon adolescence. J'avais d'ailleurs un livre qui racontait sa vie que j'ai prêté, qui ne m'est pas revenu, mais j'ai trouvé d'autres renseignements ailleurs, en particulier dans les convertis du 20e siècle que je vous recommande beaucoup. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Lu Zhenxiang, comme je vous ai dit, est né à Shanghai le 12 juin 1871. Je vous rappelle, il est mort en 1949. Ses parents, M. et Mme Lu Yangfeng, de conditions plutôt aisées, suivaient les grandes traditions morales et spirituelles du confucianisme et puis ils ont connu l'épreuve de la pauvreté. En 1879, à 8 ans, le petit Zhenxiang a perdu sa mère. L'amour qu'elle lui avait porté, dit-on, et l'affection, puis le courage bien silencieux. Écoutez ça, le courage silencieux de son père. Souvent, c'est le courage silencieux qui imprègne le plus les gens. Hein. Moi qui parle une heure par jour, je devrais peut-être garder davantage le silence. Alors, le silencieux courage de son père, dit-on, se sont imprégnés avec l'affection dans son âme. Et il a été, selon l'expression chinoise, un fils filial. C'est beau, hein? Un fils filial. La Chine souffrait, elle était assujettie sous un pouvoir impérial épouvantable. Hein? Peut-être que vous avez vu ce film sur le dernier empereur chinois, hein? Qui était tout jeune, il y avait l'impératrice douairière, et puis il a perdu son poste, et puis il a voyagé en Europe, puis il a abouti dans des camps de concentration, c'était terrible. C'est un très, très, très beau film qui a été fait il n'y a pas si longtemps. C'est récent, ce film. Et alors, donc, le pouvoir impérial était en pleine décadence. La Chine était plus ou moins asservie à toutes sortes de puissances étrangères, particulièrement aux Anglais, et M. Liu Yongfeng, son père, a estimé qu'il fallait joindre à la formation ancestrale de Confucius une information réelle des choses de l'Occident. Alors, il est entré dans la London Missionary Society, ou la Société missionnaire de Londres. Et lui-même, et son enfant, mon petit garçon, sont devenus chrétiens. Ils ont reçu le baptême. Dans une autobiographie qu'il a écrite, dont Lou, le père Lou, raconte, c'est dans cette société protestante que j'ai reçu le baptême et que j'ai expérimenté pour la première fois la charité chrétienne. Moi, quand on me dit, il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les autres, je me dis, mon Dieu, s'ils connaissaient tout ce qui se fait de charité chrétienne, j'en parlerai en particulièrement jeudi en parlant, ou puis demain aussi. Demain, ce sera le prince Vladimir Gika, et jeudi, ce sera Tom Dooley et Marcel Charles Roy, deux médecins admirables, pleins de charité, de bonté. Et alors donc, cette charité l'a frappé, cette charité chrétienne. Et il ajoute, je pourrais en arrêter 1000 traits touchants. Le protestantisme a été pour moi une étape dans laquelle, sans laquelle, je crois que je n'aurais pu arriver au catholicisme. Alors, il avait fait initier son fils au classique chinois, son père. Il l'a placé à 13 ans et demi, en dépit des critiques, à l'école des langues étrangères de Shanghai en vue d'un futur séjour à l'étranger. Le jeune Liu, Tsenxiang, malgré une santé qui était plutôt fragile, a réussi brillamment ses études. Il y a 18 ans, il est entré au collège Tong Wen, qui dépendait des affaires étrangères. Et là, il a lu Jean-Jacques Rousseau. Il a décidé de prendre un prénom occidental. Jean-Jacques, imaginez. Mais il ne l'a pas vraiment porté. Et en 1893, il a été envoyé comme interprète à la légation de Chine à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et c'est là que M. Liu Yongfeng avait doté son fils d'un grand trésor moral, s'appuyer sur le ciel. Oui, s'appuyer sur le ciel et ne jamais dépendre de l'argent. Et dont Liu raconte, « Dès mon enfance, mes parents m'apprirent à affronter les critiques des hommes et les vicissitudes de la vie. » C'est comme ça qu'on doit élever nos enfants. Hein. « Mon père m'apprit aussi à ne jamais m'attacher à l'argent. » L'argent, disait-il, doit passer entre les mains comme l'eau sur le dos d'un canard. L'homme ne peut retenir pour lui ce qui est un objet d'échange en vue du bien de tous. Alors, la doctrine de Confucius, ben, je vous explique, Confucius, c'est Confucieux. Les Chinois l'appellent surtout Confucieux. Ben, il est né en 551 avant Jésus-Christ, puis il est mort le siècle suivant, en 479. Philosophe chinois, qui n'a pas d'élan mystique, hein, mais c'est une morale élevée qu'il nous a enseignée. Il a enseigné surtout aux Chinois, mais c'est une morale élevée accessible. C'est la morale du juste milieu. Raisonnable, quoi. Et alors, donc, la doctrine de Confucius était la règle d'or de ce jeune homme. Il rencontrait à Saint-Pétersbourg un homme d'État qui en faisait avec grandeur l'esprit même de sa vie. C'était le ministre Shu Qingchen, on va revenir à ce Shu, S-H-U. Alors, c'était son nouvel interprète hein, qui a été distingué par son chef et qui l'engageait à se donner au service du pays dans la carrière diplomatique. Il disait, je vous formerai, lui avait-il dit. Et courageusement, Liu Zhenxiang et son père ont accepté de ne plus se revoir. Alors, à Pékin, la dynastie Manchu agonisait, l'empire s'écroulait. Les fonctionnaires impériaux méprisaient puis dénigraient quiconque ne les suivait pas. On a vu ça dans le film. Et l'Europe, de son côté, portait à la Chine une espèce de pitié dédaigneuse, mais intéressée par exemple. Un peu comme aujourd'hui, au fond. On n'est jamais très gentil avec les Chinois, au fond. On les dédaigne un peu, mais on est intéressé à leur argent. On se dit, ah, ils sont 1 milliard, ils vont nous rapporter beaucoup d'argent. Les choses n'ont pas tellement changé. Hein. Alors, il fallait aux diplomates chinois, dans ce temps-là, une force de caractère peu commune. Et M. Shu prescrivait à son disciple, notre héros d'aujourd'hui, « Observez, taisez-vous, et quand l'heure sera venue, réformez. » Alors, M. Liu, notre futur bénédictin, écrira un jour: c'est dans cette atmosphère de silence, de révolution et d'action que s'est passée toute ma vie publique. Alors, M. Chou avait été chef de mission, lui, dans les principaux pays européens. Il connaissait bien l'Europe. Il avait observé de près, là, les éléments de leur équilibre et puis aussi ceux de leur faiblesse. Et il avait dit au jeune M. Liu: la force de l'Europe ne se trouve pas dans ses armements, elle ne se trouve pas dans sa science, elle se trouve dans sa religion. Ben oui, la force de l'Europe se trouve dans sa religion. Je me demande où la force s'en va. Hein? Eh là là. Il avait ajouté: observez la religion chrétienne. Lorsque vous en aurez saisi le cœur et la force, emportez-les et donnez-les à la Chine. C'est ce qu'on essaie de faire ici à Radio Ville-Marie, de le redonner à Ville-Marie, à Montréal, aux environs, et espérons-le, à tout le Québec. Alors, le régime chinois qui déclinait, bien, Don Liu écrit: lorsque ces hommes seront tombés, il fallait être prêt, non pas à leur jeter la pierre, mais aussitôt à les remplacer. Donc, son maître, M. Chou, a été victime de son abnégation patriotique. Le parti conservateur, patronné par la fameuse impératrice Douairière, qui n'était pas facile, a suscité la guerre des boxeurs, et M. Chou, qui était alors haut fonctionnaire aux affaires étrangères, a été accusé, condamné à mort et décapité sur la place du marché à Pékin, la fameuse place du marché à Pékin, le 29 juillet 1900. Vous savez, on a déjà vu ce film. Moi, je l'ai vu à la télévision. C'était tourné à l'époque, le 29 juillet 1900, si je ne m'abuse, et on voit ce pauvre homme se faire trancher la tête, n'est-ce pas? C'est un des premiers documentaires filmés de l'histoire du cinéma. Alors, un collègue qui était condamné avec lui a crié au représentant du ministère de la Justice, du ministre de la Justice, qui présidait l'exécution, il dit: aujourd'hui c'est à moi, mais demain c'est à vous. C'est souvent ce qui arrive. Hein? Les gens font trancher la tête de quelqu'un, puis ensuite ils se la font trancher. Alors, M. Chou le tira doucement par la manche avant de se faire décapiter, puis il dit: ce n'est pas l'heure de parler, taisons-nous. Il se livra au bourreau et 6 mois plus tard, sa mémoire était réhabilitée glorieusement, mais vainement évidemment. M. Chou s'était avancé jusqu'au seuil du christianisme et il fut un martyr de la loyauté et du patriotisme. On peut dire que c'est un martyr presque chrétien. Baptême de désir. Et à la mort de son maître, M. Liu, qui était secrétaire de la légation à Saint-Pétersbourg, a subi, un an durant, en silence, une grande lutte intérieure. À quoi bon servir des gouvernants aussi mauvais? Le ministre Yang Yu, successeur de M. Chou à Saint-Pétersbourg, lui a indiqué son devoir. Il lui a dit: vous vengerez votre maître. Oui, vous vengerez votre maître en restant digne de lui et en réalisant le programme pour lequel il a sacrifié sa vie. Or, notre fameux M. Liu écrit dans son autobiographie: Dieu aidant, je compris que toute hésitation devant devoir était un recul. Toute hésitation devant le devoir était un recul. C'est vrai, ça. Alors, la personnalité de M. Liu se précise. La piété filiale, qui est le fondement de toute perfection morale, selon lui. La maîtrise et le don de soi, dans une grande liberté intérieure au service de son pays, spécialement dans ses relations internationales. Voilà ce qui l'anime à ce moment-là. Alors, à cette étape de sa carrière et de son ascension morale, on peut dire que Dieu lui a offert le réconfort d'une affection. Il a rencontré à Saint-Pétersbourg, imaginez, mademoiselle Berthe Bovy, B-O-V-Y. C'était la fille et la petite-fille d'officiers belges. Elle était apparentée d'ailleurs au ministre de Belgique en Russie. Elle enseignait là le français. Vous savez qu'à Saint-Pétersbourg, on parlait assez couramment le français à la fin du 19e siècle, dans la haute société russe, là. Alors, leur sympathie, tous deux, là, Berthe Bovy puis Liu Tsintian, c'était soudain, c'était réciproque. C'est un amour qui a grandi. Les premières lettres adressées par mademoiselle Bovy à M. Liu dès mai 1897, on y sent le battement d'un cœur qui se défend contre une émotion nouvelle et qui s'y livre pourtant dans une léante confiance. Mais il a fallu presque 2 ans cet amour pour s'épanouir et se réaliser en dépit des obstacles. Parce qu'à Bruxelles, la famille Bovy, elle comprenait pas, épouser un Chinois. Puis à la légation de Chine, c'était encore pire, on ne comprenait pas davantage. On disait, vous brisez votre carrière, monsieur Lou. Si vous donnez suite à vos projets, vous ne pourrez jamais demeurer à la légation chinoise. Là. Alors, il l'avait prévu. Il dit, mes valises étaient faites. Mais le ministre ne tenait pas à se priver des services de ce précieux collaborateur. Alors là, la légation a précisé, écoutez ça, c'est incroyable, votre femme belge ne sera jamais admise dans les cérémonies officielles. Oui, le racisme n'est pas toujours de notre côté. Et puis, il a répondu, mademoiselle Bovy épouse M. Liu. Elle n'épouse pas la légation. C'était sa réponse. Or, M. Liu voyait loin, très très loin. Il avait rencontré, choisi une Européenne de langue française, une chrétienne, une catholique, une femme clairvoyante, de haute valeur morale et de tact parfait. Et en outre, elle n'appartenait pas à une grande puissance, mais à un petit pays, la Belgique. Ce qui était tout différent pour un diplomate chinois, alors le mariage eut lieu à la toute fin du siècle, le 12 février 1899, en l'église Sainte-Catherine à Saint-Pétersbourg. Il a été béni par un dominicain, le père Lagrange. Alors les jeunes époux se sont aimés profondément. Madame Liu comprenait le devoir d'état de son mari. Elle lui a apporté un soutien affectueux, puis une information européenne constante qui lui a beaucoup servi. Elle était fille d'officier, elle connaissait la valeur du service de la patrie, et la délicatesse puis la confiance de M. Liu, ça avivait encore son respect pour les décisions et les responsabilités que celui-ci assumait. Alors leur union conjugale était parfaite. Mais leur grand regret, Dieu ne leur a pas donné d'enfants, parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Nous sommes créés par lui. On ne peut pas faire des enfants par nous-mêmes, on ne sait pas comment. Des yeux, un cerveau, je vous l'ai souvent dit. Alors, 6 ans après son mariage, M. Liu est promu, donc en 1905, conseiller de la légation chinoise de Saint-Pétersbourg. Depuis 1644, les Chinois étaient astreints sous peine de mort, n'est-ce pas, à porter une tresse. Oui, une tresse, une longue tresse qui leur descendait jusqu'au rein. Alors, de concert avec quelques collègues, M. Liu se fait couper les cheveux. Imaginez, c'est un scandale. Son chef l'informe qu'il jouait sa carrière. Il est inflexible. La sécurité personnelle ne motivait pas un retour en arrière. En 1906, il est nommé ministre en Hollande à La Haye. Il est chargé d'y ouvrir une légation et l'empereur de Russie, Nicolas II, exprime le désir de recevoir M. Liu. Alors, au cours de cette audience, l'impératrice, elle rejoint l'empereur pour souhaiter à M. Liu, qui s'en va, un très bienveillant au revoir, si on peut dire. Alors, ce fait n'avait aucun précédent. Parce que vous savez, l'empereur et l'impératrice se déplaçaient pas comme ça si facilement. Et là, à La Haye, c'est Mme Liu qui reçoit dans les salons de la légation de Chine. Alors, je vous ai dit comment elle apportait à son mari diplomate une collaboration qui est précieuse, qui est discrète. Et au lendemain de sa mort, son mari, il va mourir quelques années plus tard, et son mari a déclaré, il a attesté, tu as toujours su garder la juste mesure, ma chérie. Durant les 20 années que tu dirigeais notre foyer, tu l'as fait d'une manière si égale et si constante, qu'elles paraissent ne former qu'un seul jour de bonheur. Rien de ce que tu as fait ne peut demeurer ignoré, car ta foi profonde éclairait et guidait toutes tes actions. Et savez-vous que c'est ça qui l'a converti au catholicisme? Il l'a dit ailleurs. Une femme qui convertit son mari par sa foi profonde et ses actions. Pas en babillant et en essayant de convertir. Non, pas du tout. Pas du tout. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait compris. Elle aimait son mari. Elle était née belge et avec lui, elle était devenue chinoise. Elle avait pénétré tout ce malentendu très douloureux entre l'Occident et la Chine. Elle avait vu que l'âme humaine était créée à l'image de Dieu, qu'elle est grande et immortelle. Et là, dans le cadre réconfortant de son foyer, M. Liu Zhenxiang poursuivait sa route intérieure, tout au devoir, évidemment, de sa charge publique. Alors là, il méditait la parole de M. Chou, vous savez, celui qui s'est fait décapiter, sur ce qui fit la force de l'Europe, la foi chrétienne. On vous l'a dit tout à l'heure. Alors à La Haye, il aborde aussitôt avec une patience qui porte des fruits les questions d'ordre public qu'il y amène. Et là, en 1907, il représente son pays à la seconde conférence internationale de la paix. Il écrit « Toutes les puissances furent unanimes à traiter la Chine comme un pays de dernier rang ». Imaginez, hein? Et il ajoute « Expérience très riche d'enseignements et de renseignements ». Alors là, en 1911, donc 4 ans plus tard, il revient à Saint-Pétersbourg, en Russie, en qualité de ministre. Et à ce moment, en Chine, la révolution, conduite par le docteur Sun Yat-sen, progressait rapidement. Sun Yat-sen, vous savez, hein? Il est mort en 1925. Il était président de la République chinoise en 1912 et 1921. Donc, on est en 1911. Et le 31 décembre, dernier jour de cette année 1911, il arrive quelque chose à M. Liu de fantastique. C'est lui qui prend sur lui, c'est ça, de télégraphier à l'impératrice régente, la vieille impératrice régente, que l'heure de l'abdication a sonné. C'est la fin de la grande dynastie Manchu. Et 6 semaines plus tard, ben, la dynastie prenait fin. Et par un vote à peu près unanime, le Parlement provisoire offrait à M. Liu le portefeuille des affaires étrangères. Il a accepté de la mi-février 1912. Alors revenons en arrière. J'ai promis, dit-il, que nos enfants seraient catholiques, dit un jour M. Liu à sa femme. Puisque nous n'avons pas d'enfants, que dirais-tu si moi je me faisais catholique? Mais tandis qu'il était encore à Saint-Pétersbourg, M. Liu a accompli cette démarche, préparée depuis longtemps et décidée depuis peu. Il a prié le père Lagrange, qui les avait mariés en 99, de le recevoir dans l'Église catholique. C'était le 25 octobre 1911. Le père Lagrange l'a accueilli volontiers. Il l'a rebaptisé sous condition, puisqu'il était méthodiste. Et depuis l'âge de 8 ans, M. Liu, bien Tsantiang, a pris alors le prénom symbolique de René. Oui, de René. Il est René. Alors, il écrivait plus tard, « Ma conversion ». Écoutez bien ça, c'est très important. « Ma conversion n'est pas une conversion, c'est une vocation. Ma femme, dira-t-il encore, n'avait jamais soulevé auprès de moi la question religieuse. Elle s'était bornée à accomplir, avec beaucoup de simplicité, ses devoirs de conscience. C'est comme ça qu'on peut convertir son mari ou sa femme. Hein? Je répète, ma femme n'avait jamais soulevé auprès de moi la question religieuse. Elle s'était bornée à accomplir avec beaucoup de simplicité ses devoirs de conscience. Alors, Dieu aime les âmes loyales. Et le 22 novembre 1911, M. Liu s'est approché de la Sainte Table. Et le 5 avril de l'année suivante, le 1912, alors, après avoir téléphoné à l'impératrice de l'affaire démissionner, il a été confirmé par l'archevêque catholique de Saint-Pétersbourg. Et là, le programme de M. Liu comportait, en premier lieu, la réforme du département, puis la constitution elle-même de la carrière diplomatique qui, en Chine, alors, ben, était inexistante. C'est une tâche capitale. Hein? Alors, il l'accomplit au cours des 3 périodes pendant lesquelles il a assumé la direction des affaires étrangères. Des postes très importants, hein? D'abord, en 1912, lors de la fondation de la République chinoise, puis il a eu aussitôt à tenir tête à la Russie. Il est revenu au pouvoir en 1915 pour la défense de la Chine face à l'ultimatum des fameuses 21 demandes lancées par le Japon. À 2 reprises, en 1912 et 1915, il fut également premier ministre de la Chine. En 1917, M. Liu a voulu que sa patrie prenne part au conflit mondial, puis à son règlement, puis à Versailles, bien là, les puissances européennes, eux autres, refusant tout examen, bien, ont prétendu que la Chine accepterait le traité. Et le gouvernement chinois a cru prudent de s'incliner. Il a donné au ministre l'instruction formelle de signer, mais M. Liu Noble a refusé. Les puissances ont compris son geste. Ils se sont tués. La Chine l'a compris également. Puis elle a acclamé M. Liu Tsintiang. Et en cette même année, 1917, M. Liu a amené le gouvernement chinois à offrir au Saint-Siège, oui, l'établissement de relations diplomatiques. Et cette proposition a été aussitôt acceptée par le pape Benoît XV. Et déjà, le ministre au Vatican et le nonce à Pékin étaient désignés, dont Liu Tsintiang a indiqué lui-même à la page 140 de ses Souvenirs et pensées. Difficile à trouver aujourd'hui ce livre, Souvenirs et pensées, que j'ai perdu. Ben, il a indiqué l'opposition que l'Europe a fait à ses actes, mais nous verrons tout à l'heure toute la progression de cette vie fantastique qui le mènera à la sainteté. Alors voilà que nous sommes de retour à Rencontre spirituelle pour poursuivre avec le père Lu Zhenxiang, dont Pierre Célestin Lu Zhenxiang, mais là il n'est pas encore bénédictin, il est marié, une longue expérience de vie qui a raffermi en lui sa foi et son amour pour sa famille. Oui, pour sa famille chinoise. Et dans sa piété filiale, mais il décide de transférer de Shanghai, sa ville natale, à Pékin, les restes mortels de sa grand-mère paternelle, de son père et de sa mère. Il veut les inhumer à Chala. Pourquoi? C'est parce qu'il y a là des tombes qui sont vénérées, oui, des tombes très importantes. C'est les tombes des trois fameux jésuites du XVIIe siècle, dont le fameux père Matteo Ricci, j'espère vous en parler un jour, j'aime beaucoup depuis longtemps Matteo Ricci, qui a failli convertir toute la Chine. Il faut lire d'ailleurs le palais de mémoire de Matteo Ricci de Jonathan Spence, c'est publié chez Payot en 1986, ouvrage capital sur le père Matteo Ricci. Il y a aussi là la tombe d'Adam Charles et du père Ferdinand Verblist, dont j'espère aussi vous parler. Et alors, cette translation solennelle a eu lieu le 14 novembre 1920. Le mois suivant, en décembre, M. Lu quitte définitivement la direction des affaires étrangères de Chine. Il projette de se construire à Chala, là, près de la tombe de ses parents et des jésuites, une villa que, par lui-même, il pourrait habiter avec sa femme, et puis ce serait en reconnaissance envers Dieu. Il l'appellerait Moulou, c'est-à-dire cabane de vénération, et où sa femme et lui se consacreraient à faire le bien. Déjà, il avait assumé la charge de vice-directeur du bureau de secours aux affamés. L'état de santé de Mme Lu a contrarié son projet. Elle devenait un peu malade. Alors, il y a eu un retour en Europe qui était nécessaire pour la faire soigner. En 1922, ensemble, ils ont gagné la Suisse pour habiter une villa qu'ils possédaient à Locarno. C'est très beau, là-bas, là. Et le gouvernement chinois a invité M. Lu à prendre les fonctions de ministre à Paris. Mais il a décliné l'offre. Il voulait s'occuper de sa femme. Mais, finalement, il a donné le poste à Berne, la capitale de la Suisse. À cette même heure, la Chine allait au-devant de nouvelles épreuves. Il y a eu une première mainmise sur la Chine de la Russie soviétique, qui en 1923 s'est attribuée exactement ce qu'en 1915, M. Lu avait refusé au Japon. Il a fallu attendre alors jusqu'en 1928 pour que la Chine recouvre son indépendance sous la conduite énergique du nouveau chef de l'État. Et quant à M. Lu, il s'est éloigné de la vie publique. Là, la Providence agissait, Dieu ne l'abandonnait pas, loin de là. Et M. Lu a vu sa femme, Berthe Bovy, frappée à mort. La maladie avait eu raison d'elle. Ils avaient fait le rêve de mourir le même jour. À chaque fête de Sainte Berthe, vous savez qu'en France, en Belgique, on fête les fêtes des saints, d'abord, plutôt que la fête de l'anniversaire de naissance. Même chez les athées, hein, c'est curieux. Alors, la fête de Sainte Berthe, ben, c'est le 4 juillet. J'avais fait une émission sur Sainte Berthe. Et M. Lu évoquait ce vœu-là. Alors, la maladie s'est aggravée, puis à l'approche de leurs noces d'argent, le 12 février 1924, M. Lu a fait faire deux nouvelles alliances en platine. Sur celle qu'il a offert à sa femme avant de mourir, il a fait graver trois fois la lettre P. Ça signifiait prière, patience, pénitence. Alors, c'est vers cette époque qu'a paru Journal et Pensée de chaque jour d'Élisabeth Le Sœur, dont je vous parlerai le 21 février 50. C'était publié par le père Le Sœur, son mari qui était devenu prêtre et était devenu dominicain. Alors, M. Lu en fit la lecture à haute voix. Cette lecture permit à nos deux cœurs, sa femme mourante et lui-même, de se comprendre et de se pénétrer plus profondément que jamais. Toute la tendresse conjugale qui transparaît dans ce livre extraordinaire du Père Le Sœur fait vibrer des échos dans l'âme des deux époux chinois, si on peut dire. Comme par jeu, écrit M. Lu, Je donnai à ma chère malade le nom d'Élisabeth en l'honneur d'Élisabeth le sœur. Tu es une véritable émule d'Élisabeth le sœur, lui a-t-il dit. Je ne sais si je pourrais un jour devenir le père le sœur. Il commençait à penser à devenir prêtre après la mort de sa femme. Alors elle a souri, puis elle a dit pourquoi pas. Avec la grâce de Dieu et ta bonne volonté. Alors depuis cette confidence faite avec mon cœur plein d'elle, a écrit Don Loup, plus de 2 ans encore ont uni nos 2 âmes dans une communion de pensée plus profonde et une compréhension plus mutuelle que jamais. Quel couple chrétien admirable. Il ajoute, chacun de nous s'est incliné devant la vocation que Dieu nous avait clairement assignée, celle de nous aimer en lui et de lui offrir le tout de chacun de nous. Et en 1925, Monsieur Liu, au nom de sa femme malade, s'est rendu à Rome pour demander de vive voix sa sainteté Pie XI la bénédiction paternelle. Et ce pèlerinage de son mari a apporté à Madame Liu un accroissement de joie et de sérénité, mais elle est morte à Berne. Le 16 avril 1926. Pour le tombeau de sa femme, il a désiré la proximité du mausolée de la famille royale de Belgique. C'est assez étonnant. Sur le conseil de son directeur spirituel, le père de Munich, dominicain, M. Liu s'est disposé à devenir oblat bénédictin. Il s'est rendu à l'abbaye de Saint-André de Bruges. Et dont Théodore Neve, abbé du monastère, très réputé, l'y accueille. Après quelques semaines, lui suggère de faire le pas de plus pour devenir moine et accéder ensuite à la prêtrise. Et c'est ainsi que le 4 octobre 1927, nous retrouvons M. Liu qui est prosterné dans la salle du chapitre de Saint-André de Bruges, demandant au Père Abbé la miséricorde de Dieu, comme on dit, hein, c'est la formule, la miséricorde de Dieu et la confraternité, en recevant de lui l'habit bénédictin. J'ai reçu moi-même l'habit bénédictin le 15 octobre 1944, ça me rappelle de grands souvenirs, dans la salle du chapitre à Saint-Benoît-du-Lac. En ce jour même, il écrivit au roi Albert, pour lui faire part de son entrée au cloître, car il le connaissait bien, et lui rendre hommage du bien spirituel qu'il devait à sa compagne de vie belge, qui avait été sujette du roi des Belges. Alors le roi, c'est le roi Albert Ier, le grand-père de notre bon et saint roi Baudouin, qui est décédé récemment, là. Alors le roi Albert Ier lui répondit par une lettre autographe, qui se terminait par ces mots, se consacrer entièrement, écoutez bien, c'est un roi qui écrit ça, se consacrer entièrement au service de notre Seigneur, confère seul à ceux qui sont touchés par la grâce, la paix de l'âme qui est le bonheur suprême ici-bas. Formidable. Et là, notre frère Lou, il n'est pas encore prêtre, le frère Lou, s'est trouvé vis-à-vis des jeunes gens de 18 ans. Mais oui, on entre au noviciat à 18, 19, 20 ans, moi je suis entré à 18 ans. Alors ça, c'est confrère de noviciat. C'est vu vis-à-vis de la communauté dans une double infériorité, on peut dire. Il ignorait le latin. Ses connaissances religieuses, c'était les connaissances d'un pauvre laïc qui avait été occupé par des choses politiques de toutes sortes. Alors, il a prié Dieu de lui donner la souplesse de Saint-Joseph. C'est bon, hein? Alors, aucun membre de la communauté n'a eu jamais la possibilité de s'apercevoir de ce sacrifice d'humilité, si on peut dire, et de patience, hein, qui pouvait peut-être lui être très pénible, hein? Et alors, il a écrit toutes sortes de choses absolument intéressantes. Il dit, « Je suis un enfant sachant à peine marcher. Je me sens courageux. Je ne regarde pas les circonstances. J'avance. Le bon Dieu ne cesse de me faire signe et j'avance. L'enfant avance vers sa mère et lorsque tremblant il parvient entre ses bras, alors il saute, il rit, il l'embrasse. Ceci, lorsque je parviendrai à Dieu, sera ma mort. » Comme ça qu'il entrevoyait la mort, hein? Comme un grand rire, dans les bras de Dieu. Oui, il s'avançait. Et de plus en plus, ses traits reflétaient la douceur, l'affabilité, la paix et la joie. Et le 14 janvier 1928, il a reçu le nom de Pierre Célestin. Il a fait sa profession solennelle le 15 janvier 1932. Il avait 61 ans, hein? Se sentait épuisé. La poursuite de ses études sacerdotales semblait dépasser ses forces. Alors là, le père abbé de Saint-André de Bruges l'a autorisé paternellement à se contenter d'être moine. Le 3 mai 1933, l'année suivante, un de ses amis, M. Liu Fucheng, qui venait de Shanghai, lui a présenté un calice offert par 20 de ses anciens collègues du corps diplomatique chinois, tous non-chrétiens, là, des confucianistes, des bouddhistes. Alors il lui a répondu, « Mais je ne vais plus devenir prêtre, je n'ai pas la force. » Et son ami lui a répondu, « Mais alors, nous serions tous très désillusionnés. » Alors il s'est remis au travail, non pour lui, mais pour son pays, pour l'Église et pour l'épiscopat chinois, qui devait sa création, là, au pape Pie XI récemment, à Mgr Costantini, le premier délégué apostolique en Chine, puis aussi à l'humble père Vincent Leb, dont je vous parlerai un jour. 29 juin 1935, Mgr Costantini, eh bien, est venu de Rome à Saint-André pour lui conférer le sacerdoce, et dont il a pu utiliser alors le calice qui lui venait de Chine, et dont Liu aimait et vénérait le grand archevêque, messager de Dieu et du pape, auprès de l'Église de Chine, et qui, à Rome, n'est-ce pas, en 1942, devait rendre au maître de la pensée chinoise un splendide hommage. Il avait dit, écoutez bien ça, c'est beau, un archevêque à cette époque qui dit ça, « L'humble tombe de Confucius brille encore, lumineuse, de la lumière de l'âme, en vertu de la loi naturelle et de la haute intelligence d'homme supérieur, cette lumière fait entrevoir à l'humanité quelque aspect de ces vérités éternelles dont plus tard le Christ Jésus allait faire aux hommes une révélation parfaite. » C'est beau. Alors, dans la couronne de prêtres qui entourait Don Lu lors de son ordination et qui imposait les mains à ce nouveau prêtre, se trouvait le père Le Sœur dont je vous ai parlé et dont je vous parlerai le 21 février. L'époux d'Élisabeth Le Sœur. La pensée de célébrer quotidiennement le sacrifice de la messe, ça l'intéressait. Oser approcher tous les jours moi-même, le Tout-Puissant. Ah, il disait à Don Édouard Nu, qui a été pendant 21 ans son collaborateur et secrétaire, il a déclaré « J'en mourrai peut-être ». Il tremblait dans sa foi profonde. Et le drame intérieur s'aggravait. À l'autel, chaque parole devenait plus lente. Chaque génuflexion se prolongeait tellement sa foi était immense. Au point de doubler la durée de la célébration. Un jour de novembre, son secrétaire, qui assistait à sa messe, l'a vu baigné de sueur. Il disait « Je suis totalement épuisé ». Il souffrait moralement, puis il était atteint de pneumonie. Alors, Don Lu avait continué en silence à célébrer quotidiennement la Sainte Messe. Et la maladie a suivi son cours normal. Mais convalescent, tout à coup, Don Lu a fait appeler son collaborateur. Et écoutez bien, ça c'est très important. Il lui a dit, « Père Édouard, j'ai une déclaration à vous faire. Je me suis complètement trompé. Notre bienheureux Père Saint-Benoît dit dans la règle, que Dieu est un maître et qu'il est un père. J'ai retenu qu'il est maître, j'ai oublié qu'il est père. Pendant cette maladie, le Seigneur a daigné m'éclairer. Et puisque j'offre la messe à Dieu notre Père, je n'aurai plus peur de célébrer la messe. Non pas avoir peur d'aller à la messe et de s'approcher dans les premiers bancs, le plus près possible de l'autel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? » 3 jours plus tard, il reprenait, dans la joie, et dans la vigueur de ses 64 ans, la célébration du Saint-Sacrifice de la Messe, il était passé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de Confucius à Jésus-Christ, humblement heureux d'être comme Sainte-Thérèse de Lisieux, un enfant de Dieu notre Père. Quelques textes peuvent nous dire ce que Don Lu pensait de l'Église. Il disait, « L'esprit confucianiste m'a disposé, ou l'esprit de Confucius si vous préférez, m'a disposé à reconnaître la supériorité tellement claire de la Sainte Église romaine. J'aimerais que certains qui critiquent toujours notre Église et qui sont membres de cette Église écoutent ça. Hein? L'esprit confucianiste m'a disposé à reconnaître la supériorité tellement claire de la Sainte Église romaine qui détient un trésor dans lequel de siècle en siècle le croyant puise des valeurs anciennes et des valeurs nouvelles. Trésor vivant qui, de siècle en siècle, grandit et fructifie. » Il ajoute, « Je suis chrétien catholique par Parce que la Sainte Église, préparée dès l'origine de l'humanité, fondée par Jésus-Christ, Fils de Dieu, éclaire et soutient divinement l'âme de l'homme et donne les réponses définitives à toutes nos pensées les plus hautes, à tous nos désirs les meilleurs, à toutes nos aspirations, à tous nos besoins. Elle est le complément divin, merveilleux et irremplaçable de tout ce que je possédais, de tout ce que je pressentais, cherchais et désirais dans des institutions fondamentales de mon peuple, le peuple chinois. Quand on écoute ça, c'est fantastique. Comment ne pas être catholique, nous qui avons la foi? Comment rester sur le bord? Non, mon Dieu. Alors, c'était pour ouvrir à son peuple une avenue nouvelle qui reliait le confucianisme à l'Église universelle du Fils de Dieu, fait homme, que M. Liu avait frappé à la porte d'un monastère bénédictin de Belgique, la patrie de sa femme. Et l'importance, on peut dire supérieure, de sa carrière puis de sa vocation ont instillé le souverain pontife à lui accorder la dignité d'abbé de monastère. Alors, il a été établi le 13 mai 1946 abbé titulaire de Saint-Pierre-de-Gand. Le 10 août, il a reçu la bénédiction abbatiale, un peu comme un évêque, un abbé, des mains de Mgr Chen To, nonce à Bruxelles. Son anneau porte les trois clés de l'abbaye de Saint-Pierre et le caractère chinois Tien, T-I-E-N, qui signifie « ciel ». Alors, ça lui rappelait cette parole « Appuie-toi sur le ciel hein, » que lui avait dit son père. Le 26 août, dans l'ancienne abbaye de Saint-Pierre, très ancienne, hein, qui a été fondée, ah mon Dieu, je pense qu'il y a au moins 1500 ans. C'est très, très, très ancien, l'abbaye Saint-Pierre de Gand. Mais il était accueilli solennellement par la ville de Gand. Et le voici donc, moine, prêtre et abbé mitré, porte une mitre. Et la crosse, hein, comme les évêques. Et l'anneau, mais pas évêque, cependant. Il suit la conduite du bon Dieu, du Jésus. Il a fait la route, quoi? Via l'Occident, de la Chine à Jésus-Christ. Par la carrière diplomatique. Il a été premier ministre de Chine. Puis par l'amour conjugal aussi. Il passé par le service de Dieu et du prochain. Par la vie monastique. Par l'ascension sacerdoce, par les chemins de l'apostolat puis de l'abbatiat. La Seconde Guerre mondiale avait arrêté en Chine le développement de l'organisation politique et de la vie sociale. Alors, Don Liu connaissait la Russie pour l'avoir habité pendant 14 ans, puis il observait les soviets, là, qui, déclarait-il, poursuivent d'une manière supérieure et mondiale la politique traditionnelle de l'impérialisme russe. Hein, les Chinois n'ont jamais tellement aimé les Russes à cause de leur tradition impériale. Or, il voulait pour son pays, la Chine, cette liberté du spirituel, dont, en Belgique, le cardinal Mercier fut le défenseur courageux, mais il allait plus loin encore. Là, sa route apostolique mène de Jésus-Christ à Confucius, et c'est le thème nouveau, simple et profond qu'il expose dans un livre, La rencontre des humanités, les humanités chinoises et gréco-latines, et la découverte de l'Évangile. En somme, les hommes droits d'Occident et d'Extrême-Orient sont appelés à se connaître, dit-il, les uns les autres, et à se comprendre et à s'aimer. C'est ce que fait le père Raymond Panikkar, que j'ai déjà interviewé à la télévision, à rencontre de télévision. Le troisième thème, en connexion avec les deux premiers livres, concerne l'introduction de la langue chinoise dans la liturgie de l'Église catholique en Chine, dans la ligne religieuse et culturelle que le bon Dieu lui assigne. Don Liu a demandé à la ville de Gand, où il était abbé du monastère, une pierre du vieux cloître de son abbaye, afin que sur cette pierre se réédifie près de Pékin cet antique monastère de Gand, qu'on construise là, le monastère fille qui serait fils, ou une abbaye fille, parce que son monastère de Saint-Pierre-de-Gand a été fondé en 630 par Saint-Amand, qui est fêté le 6 février. Alors, lui, il se trouvait à être le 81e abbé de Saint-Pierre-de-Gand. Et au printemps 1948, un événement politique passé inaperçu lui a donné la claire vision de tous les maux qui s'abattraient sur la Chine et qui troubleraient le monde entier. Il a déclaré alors, oh, « Je transporterai cette pierre en Chine, mais je ne sais pas si je le ferai vivant ou mort. » Et tout au long de son existence, M. Liu avait utilisé pour sa correspondance différents cachets, plein de symboles, hein? Les lettres qu'il écrit de Saint-André de Bruges vers la fin de sa vie portent ces trois mots, dont l'acrostiche forme son nom, les tous obtuli universa, c'est-à-dire joyeux, j'ai tout donné. Le Seigneur l'appelait à lui, hein? Et là, en juin 1948, il a contracté une bronchite, ça l'a affaibli beaucoup, puis le 15 août, pour la dernière fois, il a pu célébrer la messe. Le 14 décembre, Mgr Youpin, archevêque de Nankin, et l'ambassadeur à Bruxelles, l'ambassadeur chinois, sont venus le saluer. Ce jour-là, son médecin a prescrit son transfert à Bruges et son secrétaire a été autorisé à loger dans sa chambre. Et c'est intéressant parce qu'il a fixé par écrit, jour après jour, les paroles et les attitudes de Don Liu. Dès son arrivée à Bruges, Don Liu Tsien-Tsiang a appelé son confesseur le 20 décembre. Et bien que il semblait pas devoir mourir bientôt, à la demande instante de Don Liu et de son confesseur, l'abbé de Saint-André lui a conféré l'extrême onction. Il lui a donné la communion. Il lui a dit, grâce à vous, révérende Simpère, j'ai vraiment reçu le sentier plus ici-bas, et maintenant, je vais encore recevoir la vie éternelle. En somme, jamais un retour sur lui-même, jamais une plainte. Il songeait aux autres, à son pays, la Chine. Il dit, je confie mon pays à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en bonne main. Et là, le 9 janvier 1949, Don Liu et son secrétaire étaient ensemble de pater, et ce dernier raconte que, arrivé au passage, que votre règne arrive, il a changé le texte, il disait que notre Père arrive. Alors, le secrétaire dit, je le reprends, que votre règne arrive. Alors, Don Liu a insisté, non, que notre Père arrive. Et ainsi à trois reprises. Et là, le 13 janvier, jour de cette dernière communion, c'était malgré son extrême faiblesse, et dès 4 heures du matin, une journée entière d'amour pour Dieu, puis de sollicitude spirituelle très précise pour le prochain. Là, à plusieurs reprises, il supplie que le bon Dieu me prenne avec lui seulement, seulement. Et là, le 14, à 12h30, il dit, encore quelques heures seulement pour voir notre Seigneur. Quel bonheur, voir notre Seigneur. Et là, à 12h55, son agonie commençait. « Vous souffrez ?» lui a dit. Il dit terriblement, inexprimablement. Alors, dans tout le corps, on lui a demandé, il dit « Oui, dans tout mon corps. » Et à ce moment, il eut encore une parole de charité pour autrui. Oh là là, alors l'agonie a duré 23 heures. Et le 15 janvier, c'est aujourd'hui le 15 janvier, à 11h50, il est 11h50, jour et heure du 20e anniversaire de sa profession monastique, eh bien le souffle s'arrêta et la tête de Don Liu est retombée en arrière. Et ce secrétaire et les deux religieuses présentes se sont agenouillées et ont entonné les paroles du subvenite. Vous vous souvenez, les gens plus âgés? Et puis dans les larmes de douleur et de joie, ils ont entonné le Te Deum et le Magnificat. Les obsèques de Don Pierre-Célestin Liu Tsien-Tsiang, 77 ans, furent présidés par le nonce apostolique. Le roi des Belges, le président de la République chinoise, était représenté. Et malgré tous les usages ecclésiastiques, une couronne avec cette seule inscription, Léopold, c'était le roi des Belges, le grand-père du roi Baudouin. Le 15 février, le docteur Zhang Wu, autre converti chinois et ministre de Chine auprès du Saint-Siège, qui avec une maîtrise supérieure a repensé et traduit en langue classique chinoise le psautier du Nouveau Testament, donne une conférence à Rome sur la vie spirituelle de Don Liu. Il disait, son témoignage apparaît définitif. Voici ce qu'il disait, l'apostolat de Don Liu s'inspire de celui de Saint Paul. Son message est le même message que celui de Sainte Thérèse de Lisieux. Oui, oui, chez Thérèse, l'esprit d'enfance mène à la sagesse, et chez Don Liu, la sagesse mène à l'esprit d'enfance. Le lien entre eux deux, c'est la docilité au Saint-Esprit. En Don Liu, l'Orient et l'Occident se sont rencontrés et mariés dans la Sainte Église catholique.